Les apprentis du bien nourri. Souvenez-vous, il y a 15 jours, nous étions avec notre père, le père de tous les musiciens, notre Jean-Sébastien Bach. On avait essayé de partir d'une vue d'ensemble, une vue d'ensemble de son œuvre. On a essayé d'élargir notre point de vue, parce qu'évidemment, souvent, les violoncellistes ne pensent qu'aux suites pour violoncelle, les violonistes ne pensent qu'aux sonates et partitas pour violon. Et pour y remédier, un remède. Très simple. Avant de jouer, par exemple, la première suite pour violoncelle de Bach, il suffit de compter. Alors, BWV 1, BWV 2, BWV 3, BWV 4, BWV 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 1007. Et à chaque numéro, il faut bien prendre conscience qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre. Alors, le violoncelliste qui joue sa suite peut, en toute humilité, s'enorgueillir d'avoir sous ses doigts un petit 0,5% de l'œuvre du maître. Mais évidemment, ce petit 0,5%, il est très important, bien sûr, qu'il reste un des sommets de notre littérature. Alors, on plonge dedans. Et c'est jusqu'à 13h40 sur France Musique. Après la vue d'ensemble, on prend le microscope. Aujourd'hui, la suite de Bach. C'est Clara qui commence avec son cours sur la sarabande de la deuxième partita pour violon seul de Bach. Et c'est son premier stage au Moulin du Bien Nourri, à Clara. Vous allez voir, elle a 11 ans, elle aborde ce monument avec la plus grande innocence et la plus grande simplicité. Alors, j'ai 5 cordes dans celui-là. Donc j'ai une corde de mi.
C'est un spécial.
Ouais, c'est un violoncelle piccolo. Le violoncello piccolo. Ça veut pas dire qu'il est picolé. Ça veut dire qu'il est petit. Tu sais ce que c'est qu'une sarabande?
C'est une danse.
C'est une danse, oui, exactement. C'est une danse lente. Et c'est marrant parce qu'avant, c'était une danse rapide. Mmh. Avant Bach, bien avant Bach, c'était une danse... tu sais de quel pays?
Mmh.
Non, d'Espagne. La sarabande est espagnole. Et c'était une danse très rapide, avec des paroles... un peu licencieuse, qu'on n'avait pas le droit de dire. Et du coup, quand on chantait la sarabande, on allait en prison.
C'est bizarre.
Et petit à petit, c'est devenu une danse de cour qu'on jouait chez le roi. Et donc, c'était devenu plus lent. Mais avant, c'était une danse très rapide et très folle. Alors, à partir du temps de Bach, c'est beaucoup plus... C'est déjà une danse très noble... Lente. La particularité rythmique de la sarabande, c'est que tu as un premier temps et puis un deuxième temps qui est long, qui va en fait faire deux temps, tu vois. Et le danseur, en fait, il s'appuie sur le premier temps et puis le deuxième temps, il est très long avec le pas glissé. Ça fait triomphe. Ça peut arriver évidemment que le danseur marque le troisième temps avec son pied, mais tout doucement. Quoi. Hein? par exemple? Il faut que tu te réfères beaucoup aux dissonances. Hier, on a vu dans le Courcol ce qui est consonant et ce qui est dissonant. Et en fait, dans la tonalité, ce qui est beau, c'est quand c'est dissonant. Parce que c'est spécial.
Ouais.
T'entends que ça, le si bémol, le si bémol avec le la, ça frotte. Hein. Là aussi, dissonant. Et le sol aussi est une note étrangère. Et enfin, c'est résolu sur ce fa dièse. Donc tu vois, tu n'as que des dissonances ici. Oui, mais tu vois, pour moi, ça, tu le joues pareil que ça. Alors que ça, c'est consonant. Et là, ça commence à se compliquer. Tu vois, on va du oui. consonant au plus, de plus en plus dissonant, jusqu'à ça qui est terrible, en fait. Vas-y, refais-moi ça. Oui. Pour moi, ça va pas encore, parce que là, tu détends le son. Tu vas... Et du coup, ça, ce miré, il a pas sa valeur, son intensité. Parce que juste avant, tu relâches. Tu vas... Alors, ça aura encore plus d'effet si les deux temps d'avant, tu les relâches. Et que le troisième, tu ne le relâches pas. Pour t'emmener jusque-là, tu vois. Tu fais... Essaye ça. Voilà, ça c'est pas mal. Sauf que maintenant, ton son est un peu coincé là-haut. Là, ça fait... C'est un peu trop appuyé dans l'archet. Ou alors peut-être change d'archet. Pour pas que ce soit coincé et que ça reste plus fort. Peut-être repousse ce ré et du coup tu peux faire tire pousse là. Enfin bon, je veux pas te changer tes coups d'archet en même temps, c'est idiot. Mais... Parce qu'on peut le faire avec ton coup d'archet, on peut le faire bien aussi. Ça, ouais. Alors ça par contre pour moi ça va pas parce que tu fais là, si, si, là, tu joues plus fort. Ces notes toutes seules, alors que c'est... elles sont pas sur les temps. C'est tarim tiram tarim tiratom. Et seulement à la fin de la mesure, tu conduis vers le premier temps suivant. Non, tu vois, tu fais un crescendo sur cette petite note là. Elle devrait pas. Et alors, en fait, il faut aussi que tu te rendes compte de ce que ça donne comme effet quand tu vibres. Le son te paraît plus tendu quand je vibre ou quand je ne vibre pas ?
Quand tu ne vibres pas.
Quand je ne vibre pas, c'est plus tendu.
Oui.
D'accord. Et en fait, ce qu'il faut que tu arrives, c'est justement à tendre le son comme tu tends un fil. Tu vois ? Quand tu fais ça... Et tu vois, quand je tends le son comme un fil, et ensuite je le détends sur le fa dièse. Donc éventuellement, je peux vibrer un petit peu. Si je vibre pendant le sol, ce qui était ce que tu as fait, ça perd sa qualité de tension. Tout d'un coup, tu détends le son. Hein? Oui, mais là, attends, Clara, là, tu ne le vibres pas pour me faire plaisir. Mais ce que je voudrais, c'est que tu sentes toi-même la nécessité de ne pas le vibrer. C'est-à-dire... que intérieurement tu te le chantes comme ça. Si. Elle s'en sort bien, la petite Clara. Hein. Pas évident de jouer comme ça, sans vibrer quand on n'a pas l'habitude. Pas évident de comprendre ce que c'est vraiment qu'une danse stylisée, par exemple, à cet âge-là. Pas évident non plus de rester toujours conscient de la grandeur de l'œuvre qu'on joue. À cet âge-là, évidemment, on n'a pas conscience de tout ça, mais en réalité, chez certains, ce contact avec Bach peut provoquer une prise de conscience. La conscience que la musique n'est pas forcément décorative, que c'est pas forcément anecdotique, qu'elle peut exprimer quelque chose de profond. On peut le sentir, même quand on est enfant, on peut le ressentir sans avoir pour autant le bagage nécessaire pour savoir de quoi sont faits exactement tous ces BWV, sans savoir encore nommer tous ces accords, sans savoir même les jouer sur un piano. Bon, cela dit, ici à Châtellerault, pour le piano, on est gâtés. On a notre accompagnatrice, notre concertmeister, Karine Cello, toujours prête à bondir sur son clavier. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup entendue là jusqu'à présent, mais elle est là, attentive, aux aguets, discrète, silencieuse. Oui, dominante, t'as envie d'un autre accord qui serait celui-là. Hein. Mais c'est pas un 7+, c'est quoi? Tu sais pas les chiffrages? 7 plus, 6, 5 barré, plus 6, plus 4. Non, ça te dit rien?
Si, j'ai appris, mais je vois écrit. Enfin...
Ah, parce que tu l'entends pas. En fait, le but du jeu, si tu veux, les 7 plus, 6, 5 barré, plus 6, plus 4, c'est comme des prénoms. Oui. C'est des prénoms qu'on a donnés à ces accords. Oui. Alors, par exemple, le 7 plus, oui, c'est le prénom de celui-là. Oui. Celui-là, tu le reconnais? Si t'écoutes bien la basse, tu sens que t'es sur une dominante à la basse. On a envie d'avoir ça. On a envie d'avoir une cadence parfaite.
Ouais.
D'accord ? Encore ? D'accord ? Donc ça, celui-là, il s'appelle 7+.
D'accord.
Enchanté, bonjour. Moi, c'est Clara. Bon. Alors, ensuite, il y a un autre accord. Si tu veux, ça, c'est les mêmes notes, mais pas dans le même ordre.
Oui.
Hein, c'est-à-dire qu'à la basse, c'est quoi?
C'est pas la sensible.
Mais si, c'est la sensible. C'est la sensible. Elle nous amène à ré. La sensible, elle peut pas descendre. On sent qu'elle va monter au ré. T'entends la basse?
Hein?
Tu sens qu'elle va monter. Hein? Et ben quand c'est un accord de septième de dominante et que tu sens que la basse va monter, ça veut dire que c'est le 6-5 barré.
Okay.
C'est un prénom composé. Monsieur 6-5 Barré est assez... il est très poli. On sent bien qu'il fait des révérences toujours. Hein. Alors, ensuite, on a Monsieur Plus 4. Ah, Monsieur Plus 4, il est beaucoup plus vif que Monsieur 6-5 Barré. Hein. Quand tu sens que la basse va descendre, c'est Plus 4.
D'accord.
D'accord. Je fais dans le temps. Et ensuite... Celui-là, il va descendre ? Ouais, c'est le plus 6. Alors le plus 6, il est plus mitigé. C'est parce que lui, il peut très bien monter. D'accord ? Et il peut descendre aussi. Lui, il sait pas trop, lui. Il se présente aux élections un peu. Il essaie d'être gentil avec tout le monde. Cet accord-là, c'est quoi ? C'est quoi comme accord ça? C'est l'accord sol la do mi.
+4.
Oui, +4, sans hésiter. Alors celui-là, c'est Monsieur +4. On va se le mettre? On le marque?
J'ai un crayon.
Crayon?
Qui est dans ma boîte de violon qui est en haut.
On en a un là. C'est Monsieur +4. En plus, il y a ce si. Hein, c'est-à-dire qu'il ne dit pas tout de suite le la, il dit d'abord si, ce qui est une note donc étrangère à l'accord. Ensuite, vas-y. Il ne faut pas que tu vibres trop, il faut que tu vibres, si tu veux, à l'époque de Bach, le vibrato, bien sûr qu'il existe, mais il est pour faire joli. C'est un ornement. C'est quelque chose que tu vas rajouter. C'est-à-dire que le son de base, il est sans vibrer, et en plus, tu vas rajouter du vibrato par moment. D'accord ? Et il faut qu'en fait, que tu as un son. Tu le joues comme si c'était des notes réelles, alors que les notes réelles, elles sont sur premier temps et deuxième temps. Donc c'est ça les piliers de l'église, si tu veux, et autour, c'est des ornements. Donc ça doit être un peu plus léger dans l'archet. Tu vois, les ornements, c'est comme... tu sais, t'as déjà écrit avec une plume. Où tu peux, si t'appuies beaucoup, c'est épais. Et si t'appuies moins, c'est...
J'ai dû écrire une fois.
Les pleins et les déliés, comme ça. T'as jamais fait ? C'est vachement agréable à faire.
J'ai longtemps.
Sinon, attends, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple ? Non, ben voilà, l'arbre. Regarde l'arbre qui est derrière nous, là. Oh, il y a un écureuil, t'as vu ? Sur la branche. Ah, génial. Alors, ce que je voulais dire, c'est, tu vois, il y a des grandes... Dans l'arbre, il y a le tronc principal, ouais. Puis t'as des grosses branches, et puis autour, t'as des petites branches. C'est comme les ornements, c'est les petites branches. Ouais. Tu vois ? Ici, premier et deuxième temps, c'est comme des grosses branches. Et ce qu'il y a autour, c'est les petites branches. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Hein. Comment ça... C'est-à-dire que joue plus avec ton archet. Le problème, c'est que tu joues que avec ton... Tu veux faire du son avec ta main gauche. Mais finalement, ça fait un son détendu. Il faut même... Tu sens comme si là, c'est plus précis, plus pointu. Hein. Ça n'empêche pas que tu peux vibrer au bout d'un moment pour détendre le son. Hein, si c'est très tendu, tu peux tout à fait vibrer au bout d'un moment. Vous voyez ? Tu vas... Excuse-moi de t'embêter, mais... Ré, do, si, tu joues comme des troncs d'arbres. Tu vois ce que je veux dire ? Tu me joues ça ? Oui. Ah ouais, et pourquoi tu scandes comme ça les notes alors que Bach il a mis une liaison ? Attention, tu sais, une liaison, ça veut dire presque un diminué, en fait. Une liaison, c'est toujours un petit diminué. Voilà. Et là, par contre, c'est pas lié. Tom, pum, pum, ça c'est pas lié. Oui. Voilà, et attention de ne pas vibrer trop. T'as pas besoin de vibrer ça. Ouais.
253,
pas besoin de vibrer, c'est vite dit. Oui, c'est une question de style. On a plutôt des habitudes romantiques quand on apprend un instrument. On apprend le style romantique, on apprend à faire des grandes lignes continues. Et dans les styles baroques et classiques, il faut apprendre à jouer différemment. Comme un comédien, en fait, ne dirait pas de la même façon un texte de Corneille ou un texte de Ionesco. L'articulation est différente, le contexte est différent, et finalement, même aussi dans une même époque, les styles peuvent différer selon les pays. On va le voir maintenant avec Julien, qui joue une suite à la française. C'est la 5e suite de Bach, pour violoncelle seul. Alors, est-ce qu'il savait aussi comment jouaient les musiciens français à cette époque, puisque tout n'est pas écrit sur une partition? Quels ornements ils faisaient? Quel rythme ils employaient? Bon, sûrement, ils savaient très bien comment les musiciens français jouaient, puisque les musiciens, eux, bougeaient et qu'ils avaient l'occasion de les entendre. La question des ornements, c'est pas si simple, encore moins aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une tradition orale. Et on peut finalement vite tomber dans le maniérisme à force d'ornementer, surtout quand on est jeune, comme Julien qui va jouer. On peut pêcher par excès d'enthousiasme, bien sûr. Par moment, c'est un tout petit peu trop fragile.
Le son, oui.
Ouais. Et même d'attaque ou de discours, des fois, ça part un peu dans une chose presque maniérée. Et c'est un peu dommage dans une ouverture à la française, quoi. Certes, le fait que ce soit en ut mineur et que ce soit si profond, ça ressemble pas à un opéra de Lully, je suis bien d'accord. Mais il faut quand même garder à tout prix cette énergie rythmique à la française. Bon, c'est à la française, mais dit par un Allemand, quoi. C'est sûr. Oui, et méfie-toi que de pas être à la noire quand j'ai pas les titres. Ouais. Parce que en fait tu te projettes tellement pas que en fait la balle retombe tout de suite. Ça fait des petits sauts. peut-être quelque chose...
Mais c'est maintenant que tu me le dis, en fait, dans ma tête, j'avais bien l'image d'une balle qui rebondit, mais en deux temps.
C'est pareil, que, il me semble que quand tu commences le... Ça, là. Tu lances pas assez loin le temps. Fait mourir juste après le temps. Tu ta 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 Super. Tu joues très peu ce qui est à l'intérieur des temps, donc ce qui est ornemental, ce qui est normal de jouer moins. Mais là, c'est tellement petit que ça devient maniéré. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette hiérarchie-là, absolument, ça c'est indispensable, mais il faut qu'elle se fasse de manière tout à fait naturelle et involontaire. Ram padam tiryam babam. Et fais gaffe qu'on entende le là quand tu verras. Ça, c'est bien. OK. Voilà. Là, c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux. Il faut vraiment que tu n'hésites pas à prononcer les ornements, sinon ça donne vraiment un côté trop, trop maniéré. Fais un peu de la fugue. Ouais. Attention, hein, de ne pas faire... Tadadadam. Voilà. Là, c'est dommage que tu donnes autant d'importance à un pont qu'au sujet. Pendant le pont, il faut que ça file pour aller jusqu'au thème. On n'a pas le droit de stationner sur un pont. C'est dans le code de la route. Donc, vas-y. Voilà. Là aussi, ça me paraît un tout petit peu trop maniéré.
Ah oui.
Ouais. Peut-être quelque chose de plus orgue, quoi. Tu vois, un petit peu plus, un peu plus droit. Enfin, t'es dans une fugue, quoi. T'es pas dans un prélude improvisé, là.
Oui.
En fait, le fait de souligner le contrepoint, ça fait un peu instrument monodique. Alors que le violoncelle n'est pas un instrument monodique quand tu joues ici du bac.
C'est un paradoxe, parce que dès qu'on a un instrument à clavier, le but, c'est d'essayer de faire sentir le contrepoint.
Eh oui. Eh oui. Et oui. Et d'autant plus avec un clavecin ou un orgue. d'ailleurs. Ouais, alors tes longues me paraissent un peu courtes. Hein. C'est un temps. Hein.
Et ça, c'est un moment que des fioritures. Hein.
Oui, bien sûr. Les piliers de l'église, c'est premier et troisième temps.
Ouais, c'est ça.
Autour, c'est que de l'ornement. Et... tu me joues les piliers sans hiérarchie. Mmh. Joue-moi que les piliers. Ah non, tu bouffes un temps. Ouais. Mais donc moins fort le solo. Maintenant avec les ornements. Attention, Laurence, de ne pas coller dans l'archet les notes qui ne font pas partie de la même voix. Et ensuite. Là, tu retrouves ta voix du haut. C'est un peu arythmie. C'est des croches. Mmh. sur lesquels on travaille, quoi, pour se faire une vraie idée. C'est-à-dire que même si on change des choses, ce qui n'est absolument pas grave, de toute façon, une interprétation, c'est forcément des erreurs par rapport à ce que Bach pensait.
Oui, oui. Hein.
Mais c'est des erreurs par rapport au texte de Bach. Alors que là, tu vas commencer à faire des erreurs sur le texte de Schering, qui, lui, en a fait sur le texte de Bach. Ou peut-être même sur le texte de son prof, à lui. Tu vois ? C'est tout le problème de la tradition. Si tu joues en fonction de la tradition, tu ne fais qu'accumuler des couches d'erreurs. Jouer selon la tradition, c'est accepter, sans réfléchir, tu vois, de prendre pour argent comptant ce que les générations précédentes ont fait. Or, l'acte principal de l'interprète, c'est d'interpréter le texte, donc d'aller chercher la source principale et de se référer à la source, de faire ses erreurs, certes, mais à partir de la source, pas à partir des erreurs des autres. Et oui, le problème de la tradition, le problème de la trahison. Comment arriver à avoir un regard neuf, mais vraiment neuf? Un regard sans conditionnement, une interprétation vierge de tout poncif, de toute jurisprudence, de toute idée reçue. Est-ce que c'est vraiment possible? C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut rester neuf quand on joue? Éveillé, en éveil, dans un état de création qui jaillirait comme ça seulement de notre contact avec l'œuvre, avec la source, l'harmonie des sons et le rythme de leur apparition. Pierre Collard qui a réalisé cette émission avec Bernard Legac et Yann Frécy. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire à l'adresse email lesapprentis@radiofrance.com. Vous pouvez nous écouter toute la semaine durant, si ça vous dit, sur francemusique.com et trouver sur ce site, à la page de l'émission, le lien pour accéder au blog du Moulin du Bien Nourri. Merci à Minouche, à Hervé, aux apprentis et à l'accompagnatrice des apprentis, la dominante Karine Cello. Vous retrouvez maintenant Dominique Boutel. Quant aux apprentis, ils vous donnent rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 13h sur France Musique. D'ici là, amusez-vous bien.